Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité, un brigadier chef, un major maintenant de la police nationale. Il a résolu deux cold cases et de plus, il est auteur et raconte, entre autres, ses enquêtes et le monde de la police judiciaire dans un livre sorti il y a quelques mois chez Studio Fact Édition et qui a pour titre L'Obstiné. Et c'est Raphaël Nedilko qui nous accompagne. Bonjour Raphaël Nedilko.
Bonjour Yannick.
Alors, L'Obstiné, c'est un témoignage dans lequel vous confessez, vous racontez un peu votre parcours. On va en parler. Et puis surtout, votre travail de policier, j'allais dire, c'est un peu une défense et illustration de l'univers professionnel de la police qui me semble, au regard de l'actualité, de plus en plus complexe, de plus en plus difficile dans une société que l'on dit de plus en plus violente. Mais c'est aussi la défense d'un grand nombre de valeurs. On va en parler longuement ensemble. Alors d'abord, Raphaël Nedilko, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu et puis nous rentrerons dans les détails du livre pour fouiller un peu tout cela?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Raphaël Nedilko, j'ai 51 ans, je suis major de police. Actuellement, je dirige l'unité des enquêtes générales du commissariat de Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire que je m'occupe, entre autres, de délits économiques et financiers et de tout ce qui est enquête administrative et ce qui concerne notamment les étrangers en situation régulière ainsi que les professions réglementées. Donc je suis rentré dans la police en 1996 par la petite porte, celle de gardien de la paix, à l'issue de mes études universitaires à Dijon en sciences de la structure de la matière. Et j'ai été affecté d'abord en service général au commissariat de police du 19e arrondissement de Paris. Puis je suis rentré dans les renseignements. Je faisais partie des brigades d'information de voie publique. Pendant 2 ans et demi, j'étais chargé de couvrir les manifestations et surtout les conditions d'usage de la force par les personnels de police ou de gendarmerie, et ça par l'intermédiaire de prises de photos et de vidéos. C'est-à-dire que lorsque la police était obligée d'utiliser la force, j'étais obligé de couvrir les conditions de ce recours pour voir justement si les règles étaient respectées. Alors j'étais à la fois mal vu par les manifestants parce que justement je démontrais que l'usage de la force est nécessaire, et mon rôle servait aussi à canaliser l'usage de la force de la police et les frustrations qui pouvaient être générées à l'époque. Puis en 2000, je suis rentré au Quai des Orfèvres, à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres, où je suis resté 7 ans. Et en 2008, j'ai intégré la PJ de Dijon, la police judiciaire de Dijon. Et enfin, en 2016, le commissariat de Chalon-sur-Saône.
Où vous êtes toujours en poste.
Où je suis encore aujourd'hui.
Peut-on dire que c'est un commissariat plus calme que
non.
Ce que vous avez connu? Non.
Non, pas du tout. Non, non, bien au contraire. Alors, il faut que, pour que vos auditeurs puissent bien comprendre, le service de Chalon-sur-Saône est un service de sécurité publique. C'est-à-dire que si on comparait ça au corps médical, on parlerait de médecin généraliste et la police judiciaire, c'est médecin spécialiste. C'est-à-dire que la police judiciaire ne peut pas s'auto-saisir. Elle est saisie sur la décision des magistrats pour traiter des affaires de délits et de crimes, de droit commun ou de juridiction spéciale, comme les stupéfiants et le terrorisme. Alors que moi, je vais traiter des affaires beaucoup plus généralistes.
Dans votre témoignage, L'Obstiné, vous dites que les stupes, ça ne vous intéresse pas.
Oui, c'est une matière qui ne m'intéresse pas parce qu'on a affaire à un profil de mise en cause qui est pour moi très cynique. Voilà, c'est l'intérêt économique, c'est le pouvoir, c'est donc des choses qui ne me plaisent absolument pas, alors que dans l'homicide, lorsqu'une personne en vient à s'en prendre à son prochain, il y a souvent une grande détresse, une grande blessure humaine, psychologique, tant au niveau du mis en cause que de la famille des victimes, et ça je sais faire.
Quand on appartient à une institution comme la police nationale, est-ce que l'on est totalement libre de ce que l'on peut écrire et qui va être rendu public, notamment appropriée par les lectrices lecteurs, certes, mais également par les médias.
Non, on n'est pas libre de tout dire, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, dans le livre, je parle d'affaires qui ont, comme on le dit, atteint l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été purgées. C'est-à-dire qu'on est passé jusqu'au pourvoi en cassation où la peine a été confirmée tant sur le fond que sur la forme. Donc là, je n'évoque dans mon livre que des affaires qui ont atteint cette autorité. Et pour celles que je pourrais citer qui sont en cours, je les rends anonymes. C'est-à-dire, j'en cite très peu, j'en cite une pour être précis. Et je ne peux pas en parler puisque l'affaire est en cours. Et sur la forme, on a ce qu'on appelle le fameux devoir de réserve. Et à aucun moment, donc, je ne viole ce devoir de réserve dans la mesure où je conserve à l'égard de mon institution et de ses dirigeants le plus profond des respects. J'ai énormément d'amour pour mon institution, mais quand on aime quelqu'un, on veut qu'ils grandissent. Donc il est vrai que je dévoile certaines vérités qui peuvent être un peu crues, hein, mais ce n'est que le reflet de ce que moi j'ai vécu au contact des plus faibles, et j'estimais que de ne pas le dire aurait été une faute.
Il y a quelques semaines, lors d'un déplacement dans une ville de province, le responsable du Rassemblement National, mouvement politique, s'est fait prendre en photo, a fait des selfies. Alors, des policiers ont fait des selfies avec ce responsable politique. Or, la police a rappelé le devoir de réserve des agents, notamment en mission sur le terrain, qui devaient assurer la sécurité à la fois de la rencontre et de la venue de cet homme politique sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les collègues ont mal agi en faisant des selfies qui peut-être n'allez pas chercher bien loin, idéologiquement parlant.
Alors,
Rassemblement national,
oui,
police,
une connotation politique qui est bien marquée. Alors, qu'est-ce qui est gênant ? C'est que les faits que les policiers aient fait des selfies avec le dirigeant du Rassemblement national ou que des tiers aient fixé la scène et les diffusé et en aient parlé. C'est ça le problème. La faute n'incombe pas à mes collègues qui ont le droit d'avoir des appétences politiques qui le regardent, ou le fait que des tiers aient voulu faire mousser la chose en divulguant cela. Moi, je me rappelle, j'ai pris énormément, lorsque j'étais en uniforme, de photos avec des touristes chinois au pied de la Tour Eiffel. Ça posait absolument aucun problème. Alors vous me direz, il n'y a pas de connotation politique. Donc le souci, c'est encore une fois ce procès qu'on fait des fonctionnaires de police qui n'ont rien demandé, alors qu'il y a quand même un cynisme et une mauvaise foi qui est, encore une fois, de jeter l'huile sur le feu. C'est ça qui me dérange.
On aura l'occasion de revenir
sur
différents points de l'actualité et Dieu sait, malheureusement, s'il ne manque pas. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre enfance, votre parcours.
Oui.
Raphaël Nedilko, le nom a des consonances d'Europe de l'Est.
Oui, c'est Raphaël Nikolaïevitch Nedilko. Mon père était un immigré russe-ukrainien. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents étaient cosaques du Dniepr, de la région de Kiev. Mon grand-père et mes arrière-grands-parents ont été victimes de l'Holodomor. C'est cette famine organisée par Staline. Donc mes arrière-grands-parents n'étaient absolument pas communistes. Hein. Ils étaient orthodoxes. Mon grand-père a fui l'Ukraine, hein, qui faisait partie de la Russie à l'époque. Il a rencontré ma grand-mère, Ljubica Protic, qui est donc yougoslave, elle-même de confession orthodoxe. Et de cette union sont nés plusieurs enfants. Alexandre, qui est mort de froid en Sibérie dans un camp d'éducation soviétique. Et puis après, vous avez Sergueï et Olga. Et enfin, Nikolai, mon papa, qui est né dans un camp de réfugiés tenu par les Américains à Braunau en Autriche, qui est tristement célèbre puisque c'est la ville de naissance d'Adolf Hitler. Il est né en 1946 dans un camp de réfugiés tenu pour les Russes qui fuyait le régime soviétique tenu par les Américains. Il est arrivé en France à l'âge de 3 ans et il a été apatride jusqu'à la fin des années 70.
Alors votre papa donc a épousé une Française ?
Oui, maman, oui.
Catholique ?
Catholique, effectivement.
Vous l'êtes également, vous,
oui,
parce
avec
que la foi a son importance.
Voilà, qui porte le joli prénom de Myriam. Et donc, mon papa a basculé du côté du catholicisme à la rencontre de maman, qui est une femme avec énormément de détermination et de caractère. Et mon papa est aujourd'hui diacre de l'église catholique à Chalon-sur-Saône. Et il célèbre beaucoup d'obsèques, de baptêmes et de mariages.
Alors, vous avez un temps, dans votre jeunesse, pensé devenir prêtre. La foi vous anime toujours, d'ailleurs.
Oui, je suis l'obélix de la foi catholique. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, évidemment, j'ai reçu une éducation catholique, mais très humaniste. Donc, pas d'intégrisme, pas de traditionnalisme, pas de prosélytisme, mais surtout cette volonté de toujours mettre l'humain au cœur de l'équation, c'est-à-dire qu'on est profondément humain avant d'être chrétien. Donc j'ai toujours cette volonté d'aller à la rencontre de l'humain. Je l'ai conjugué au nom de ma foi dans mon métier et j'ai pensé, il est vrai pendant un moment, être prêtre. Donc déjà à l'époque où j'étais lycéen puis étudiant, et lorsque je suis devenu policier, j'ai pensé à démissionner pour rentrer au séminaire. Et la question s'est posée jusqu'à cette rencontre avec Guy Gilbert, le prêtre parmi les Loubards, qui m'a conseillé de façon un peu rudoyante de rester dans la police parce qu'on avait besoin de bons policiers et que des curés, on en trouverait toujours.
Parfait. L'obstiné, c'est le titre de votre récit et témoignage paru chez Studio Fact Édition. Vous nous accompagnez jusqu'à midi dans Wagon Livre et on reviendra bien sûr sur cette riche carrière. La retraite à quel âge, Raphaël Nedilko ?
Alors si je compte bien, 59 ans, pratiquement 60. 60 pour moi.
Très bien. On se retrouve dans quelques minutes. Petite retraite en musique pour notre part et on revient juste après.
C'est le jour où l'été est arrivé. Le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé, on a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est le major de police Raphaël Nedilko qui nous accompagne, mais c'est aussi l'auteur d'un témoignage, un récit. Vous le qualifiez comment ce livre ? Récit, témoignage, ça vous va ?
C'est un polar du réel.
Polar du réel, publié chez Studio Fact, qui effectivement est une maison d'édition qui aime ce genre de texte.
Qui ne fait que la littérature du réel, effectivement.
Et qui a pour titre « L'obstiné », sorti cette année 2023.
Le 22 mars.
Au printemps. Et Raphaël Nedilko, vous nous avez expliqué vos racines familiales. expliqué combien la foi vous anime toujours, très attaché au respect de l'être humain, hein, que ce soit même les criminels, ceux que vous avez en garde à vue, vous les respectez oui. En tant qu'être humain.
Absolument.
On y reviendra. Alors, à l'âge de 4 ans, vous avez failli être amputé, vous avez eu pas mal de problèmes de santé, même si aujourd'hui vous êtes un immense gaillard
oui.
Qui porte 130 kilos de fonte tous
exactement.
Les jours, qui court, qui est passé à côté de l'infarctus, qui a fait un burn-out.
Oui.
Mais des soucis dès l'enfant, une enfance un peu particulière
oui.
Qui fait que les autres avaient un regard un peu étrange sur vous.
Oui, en dehors du fait d'être un fils d'immigré, j'ai des parents qui ont toujours travaillé et ont vécu très simplement. Alors, comme ma photo sur le livre l'indique, je n'ai pas de cheveux. Mon papa était coiffeur. C'était son premier métier. Et puis, il a laissé tomber pour vivre plus modestement auprès de nous. À l'âge de 4 ans, j'ai été fauché par une voiture. J'ai été écrasé par une voiture. J'ai eu une fracture ouverte de la jambe gauche qu'on a failli m'amputer en dessous du genou. Et le médecin avait dit à mes parents, j'ai réussi à le rafistoler. Et comme Rafi et le diminutif de Raphaël, les gens me surnomment Rafi, mais très peu connaissent la raison pour laquelle on me surnomme ainsi, Rafi, rafistolé. Et puis j'ai eu cette enfance auprès de ma sœur aînée, avec des parents qui travaillaient toujours, donc on était ce qu'on appelait des enfants adultistes. On s'est élevé tout seul avec ma sœur et on s'occupait de la maison pour que mes parents aient le moindre chose à faire en rentrant le soir. On a été élevé dans le respect donc de l'enseignant, du prêtre, du médecin, des autres religions. Voilà, notamment de la religion juive, pour laquelle ma maman me disait que c'était nos grands frères dans la foi. Donc je suis très très proche des personnes de confession juive, et le respect aussi de l'islam, puisque mon arrière-grand-père maternel est kabyle, et il est mort en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, avec l'uniforme français. Et puis à l'âge de 12 ans, en 1985, ma grand-mère m'a été arrachée, mon unique grand-mère, ma grand-mère maternelle a été arrachée à la vie par son chien, qui était censé la protéger, qui sur un coup de folie s'est jeté sur elle et l'a égorgée. Voilà, donc ça a été pour moi la rupture de l'enfance innocente et joyeuse dans le Jura, où ma grand-mère me recevait pendant les vacances et les week-ends. Et du jour au lendemain, ça a été cette rupture avec l'enfance innocente et profonde.
Vous l'avez dit au début de notre émission, vous avez passé 7 ans au 36 Quai des Orfèvres.
C'est exact.
Pour beaucoup de gens, disons d'un certain âge, le Quai des Orfèvres, ça,
le Saint des Saints.
Ça a du sens, à la fois oui. Bien sûr pour les policiers, mais aussi parce que le Quai des Orfèvres, c'est un lieu réel que l'on retrouve dans beaucoup de films. Je pense au film d'Henri-Georges Clouzot, qui est un film de 1947 avec Suzy Delair, Louis Jouvet, Bernard Blier, entre autres. Et j'allais dire que passer par le 36 Quai des Orfèvres à Paris, quand on est policier et qu'on veut évoluer, c'est une véritable école, peut-être plus intense que l'école de police de Sens
oui.
Où vous fûtes élève.
Oui, bien sûr, parce que l'école de police de Sens, comme toutes les écoles de police, quel que soit le niveau dans lequel on rentre quand on intègre l'administration, c'est une formation dite initiale qui est théorique. Là, j'ai vraiment pu apprendre avec un encadrement de qualité, formé pour essentiel des anciens inspecteurs de police. Donc j'étais entouré de lieutenants, de capitaines et de commandants qui m'ont appris non seulement à gérer les affaires dans ce qu'elles avaient de plus dur, notamment au niveau de la scène de crime, la gestion de la scène de crime, les autopsies, les enquêtes de voisinage, et aussi ce formalisme procédural en matière criminelle, aussi bien en droit commun, c'est-à-dire les homicides, les enlèvements, les viols, mais aussi en terrorisme, puisqu'il y a une section antiterroriste à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres à cette époque. Et c'est comme ça que j'ai appris la police dans cette grande maison, avec un grand M, entouré de gens absolument merveilleux.
Vous dites d'ailleurs, je vous cite, que vous avez été un enquêteur comblé au 36.
Oui, ce sont de toute ma carrière, ce sont mes plus belles années. J'étais entouré de gens qui avaient énormément de caractère, mais qui avaient le cœur sur la main. Et
tous... des gens de la maturité.
Oui,
des vieux flics en fait.
Oui, des vieux flics. Alors, ils n'aimeraient pas que je parle d'eux comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient entre 35 et 47, 48 ans. Et c'est des... on faisait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble. Mais le week-end, quand il y en avait un qui avait un déménagement, on le faisait ensemble. Quand il y en avait un qui se mariait ou baptisait le petit, on le faisait ensemble. On partageait tout ensemble.
Quand on a intégré le 36 Quai des Orfèvres, est-ce que on a conscience du poids de l'histoire de ce lieu qui a vu défiler des Landru, des Docteur Petiot, des tas d'affaires, y compris les plus récentes de terrorisme.
Oui,
aussi.
Oui, d'autant plus que lorsque j'intègre la brigade criminelle en 2000, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, a été interpellé peu de temps auparavant, et je suis d'autant mieux placé pour parler de cette affaire-là que mon chef de groupe de l'époque, commandant Francis Béchet, est celui qui a obtenu les aveux de Guy Georges sur le meurtre de Pascal Escarfaille, assassiné en 1981. Donc les murs sont vraiment marqués par cette histoire humaine et judiciaire.
Francis Béchet d'ailleurs qui assistera à votre mariage.
Oui, je me suis marié en 2021, il sera fidèle au rendez-vous à cet événement. Oui.
Alors évidemment, 7 ans au 36 quai des Orfèvres à Paris. Et puis pourquoi vous retrouve-t-on à Dijon? Vous demandez votre mutation?
Oui.
Ou alors on reste pas indéfiniment dans une même brigade quand c'est comme les gendarmes, on doit changer.
Alors moi j'ai vraiment senti se négocier ce virage dans la police où on a vu arriver une nouvelle génération de policiers à tout niveau, où cette âme profonde du policier qui est sur le terrain, qui s'intéresse à tout, qui travaille en complète collaboration avec ses collègues dans un esprit vraiment de fraternité, a quelque peu abandonné les rangs de la police nationale. Ça se sentait pas trop encore au début à Paris, mais ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre, et je dirais que quelque part la police, notamment police judiciaire mais dans d'autres services, a perdu son âme. Il est arrivé un jour une affaire qui a vraiment défrayé la chronique, c'est l'enlèvement et la torture et le meurtre d'Ilan Halimi, ce jeune de confession juive qui avait été enlevé par Youssouf Fofana et par ses lieutenants. Et à l'époque, ma première épouse qui ne travaillait pas à Paris, qui avait juré qu'elle n'y mettrait jamais les pieds, qui avait tout quitté pour me rejoindre et élever nos trois enfants, je ne voyais plus de raison de la maintenir dans cette difficulté d'une vie francilienne, alors que moi-même je souffrais de ne plus recueillir au sein de la brigade criminelle ce qui m'avait tant plu, ce qui avait été si cher à mon cœur. Donc j'ai fait prévaloir mes droits de la mutation en province, et à l'époque, comme j'appartenais à un service prestigieux, j'étais muté sur un simple coup de fil où il a fallu mon nom, mon prénom, mon matricule. Donc j'ai intégré très facilement la DIPJ de Dijon. Le directeur de la PJ de Dijon voulait me placer en brigade des stupéfiants. Pour la raison que je vous évoquais tout à l'heure, ça ne m'intéressait pas trop, j'en ai fait part. Et donc j'ai intégré la répression du banditisme de 2008 à 2009. Puis en 2009, à la création d'un groupe criminel, j'ai naturellement, avec mon pédigré, intégré ce groupe.
Alors lorsque vous arrivez à Dijon, justement, il y a un contraste saisissant de mentalité entre le 36 quai des Orfèvres à Paris et la PJ de Dijon. Et parce que vous êtes un flic à l'ancienne, finalement. Et vous écrivez « J'ai quitté la ruche du 36 pour une niche à chats, et un peu plus loin, ça fait sourire, des chats de coussin nourris au Sheba ». En fait, on a l'impression que, finalement, la PJ de Dijon n'était pas très efficace, qu'il y avait beaucoup de dossiers qui prenaient la poussière, que ça n'avançait pas. C'est en tout cas le constat que j'en fais en vous ayant lu. Vous ai-je mal lu ou pas?
Alors non, vous m'avez parfaitement bien lu, d'autant que même si les gens trouvent cela difficile soit à lire ou soit à entendre, c'est la réalité qui a été la mienne. Donc j'avais des collègues éminemment professionnels, d'une grande qualité à la DIPJ de Dijon, mais ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était cette tendance à l'individualisation des dossiers. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je quitte le quai des Orfèvres, j'avais été plutôt habitué au travail donc collégial, le travail en groupe, où tout le monde s'intéresse à ce que font tous les collègues dans tous les dossiers. Et en plus, on le portait par écrit, on faisait des notes d'information. Et on avait pour mission, lorsqu'on rentrait d'un congé prolongé, de prendre connaissance de ce que les collègues avaient fait en notre absence. Et ça, à Dijon, je ne l'ai pas retrouvé. Les gens, une fois que l'urgence de l'affaire était passée, les dossiers étaient individualisés et le sport était surtout de ne pas plonger dans le nez de ce que faisaient les petits voisins. Et lorsqu'un témoin appelait dans un dossier qui n'était pas le sien, on disait, écoutez, le fonctionnaire est absent, appelez lundi. Et ça, c'est la cause numéro un, la déperdition de la formation. Et c'est quelque chose qui m'a choqué. Et je me suis rendu compte que certains collègues préféraient une vie bien confortable, bien lénifiante, qui me faisait penser à eux comme des chats de coussin.
Et d'ailleurs, page 115, dans L'Obstiné, vous écrivez « Je découvre ainsi qu'il y a la catégorie des chats de coussin, mais qu'il existe aussi des niches que ronge la gale. »
Oui.
Alors là, c'est peut-être un petit peu différent, mais on sent quand même qu'il y a des mentalités, des comportements.
Oui.
qui vous heurte.
Oui.
Et puis vous dérangez aussi.
Oui, je dérange énormément puisque moi j'arrive déjà avec un formalisme procédural, c'est-à-dire une manière de travailler le procès-verbal, l'articulation de la procédure, qui n'est absolument pas partagée par mes coreligionnaires lorsque j'arrive à Dijon. Et ça, on me le fait très vite remarquer et on m'en fait le reproche. Et je suis obligé de justifier du bien fondé de mes remarques pour le bien de la procédure et la facilité qui pourrait en découler d'en prendre connaissance. Et on voit que ce problème viendra récurrent, notamment quand je vais m'intéresser à ces dossiers non résolus. Lorsque j'appréhende ces dossiers, je vois qu'ils sont classés de façon chronologique. Donc quand vous avez 30 PV, ça va. Mais quand vous avez 1700 procès-verbaux et que vous n'arrivez pas à retrouver le fil conducteur de l'esprit de l'enquêteur, c'est préjudiciable à la manifestation de la vérité.
Alors justement, on va y venir à ces dossiers non élucidés, non résolus, ce qu'on appelle ces hideux anglicismes cold case.
Oui.
Y a-t-il un équivalent français ?
Crime non résolu.
Crime non résolu, tout simplement, périphrase. Est-ce que, Raphaël Nedilko, vous acceptez que nous fassions un nouvel intermède musical ?
Avec plaisir.
Et puis ensuite, on reviendra justement sur ces deux affaires non résolues dans lesquelles vous allez mettre le nez et avec obstination, puisque Obstiné est le titre de votre recueil, vous allez retrouver les auteurs de crimes horribles, crimes de jeunes femmes en 86 et en 96, mais on en parle juste après la virgule musicale que nous vous proposons. C'est Raphaël Nedilko qui nous accompagne et je ne cacherai pas à nos auditrices et auditeurs que nous avons enregistré cette émission en marge du Festival du Livre de Blanzy le 15 octobre dernier.
Mon cœur y va bien. J'ai juste deux traits, c'est gratinure, c'est rien. Et j'ai pas besoin de premiers soins. Et tu peux garder ton venin, le ravaler d'ailleurs si tu regardes bien. C'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins. Il paraît même que tu chantes mes refrains. Tu vois, fallait pas. Appelle de fort. Ah 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 ah. Mais faut que tu circules. Ah, circule, y'a plus rien à voir. Et je sais, ça te fait bizarre. Mais fallait pas. Toi t'as voulu partir. Parier sur lequel a laissé sortir. Mais y'avait pas 10 000 façons de le faire, de le dire. Non, non, y'avait pas 10 000 façons de quitter le navire. Tu vois, fallait pas. Qu'est-ce que tu deviens, toi? Oh, qu'est-ce que tu deviens, toi? Ah, tu vois, fallait pas te foutre de moi. Surtout quand je vois ce que tu deviens, toi. Ah, tu vois, fallait.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'obstiné, c'est le titre du livre témoignage de Raphaël Nedilko paru chez Studio Fact. Et vous écrivez, Major, vous écrivez, le pire ennemi d'un dossier, c'est le temps. Alors effectivement, à Dijon, vous ressortez des affaires non résolues, des cold cases. Et première affaire située au Creusot, Saône-et-Loire, en décembre 86, où Christelle, 16 ans, est poignardée. Apparemment, il n'y a pas de mobile sexuel. Il n'y a jamais eu de mobile sexuel, je crois, dans ces crimes. Oui. Et puis, il y a une affaire qui, elle encore, a lieu en Saône-et-Loire. C'est à Blanzy, mais alors 10 ans plus tard, en 1996, une jeune femme de 20 ans, une Christelle, une fois de plus, qui est tuée, elle, de 123 coups de couteau. Comment ces dossiers ressortent-ils et comment les appréhendez-vous ?
Alors, lorsque j'arrive du Quai des Orfèvres en 2008, mais que je suis affecté plus précisément à la nouvelle brigade criminelle, la brigade de répression des violences à la personne en février 2009, je prends connaissance de ces dossiers. Et les enquêtes sont en cours, c'est-à-dire que depuis le début des années 2000, l'association Christelle, qui a vu le jour au lendemain du meurtre de Christelle Blétry en 1996, mène un combat pour servir d'aiguillon face à l'inertie de la justice, puisque beaucoup d'actes ont été faits au départ, et puis très rapidement, on est rentré en phase d'essoufflement. Et surtout, ce qui est à remarquer, c'est que la façon dont la famille de Christelle Blétry a été traitée est littéralement inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a une façon innommable dont Marie-Rose Blétry, la maman de Christelle Blétry, a appris la mort de sa fille. Elle est absolument mal prise en compte par les personnels enquêteurs. Elle est mal prise en compte par le médecin légiste. Elle en prendra le lendemain par voie de presse comment sa fille a été tuée. Le mode opératoire, elle apprendra des révélations de lettres écrites par sa fille où elle explique avoir été menacée. Elle apprend ça encore une fois par voie de presse. Donc la colère ne fait que grandir. Et voyant que son enquête n'avance pas et qu'elle est absolument mal gérée, Marie-Rose, avec l'aide de ses amis, créera cette association. Et face à ce nombre important de meurtres non résolus entre 1984 Bon, on n'est qu'en 97, mais la liste s'étend plus tard, jusqu'en 2005, avec le meurtre d'Anne-Sophie Girolet à Mâcon. L'association lance un appel à la réunion publique, et c'est là que se présente Marie Pichon, la maman de Christelle Maïri, qui, elle, a été assassinée 10 ans plus tôt, en 86, au Creusot. Et c'est par la voix de leur avocat, Didier Seban, que des demandes d'actes donc, de police et de gendarmerie soient effectuées par la voix donc, de leur avocat. Et il faudra une lutte de plusieurs années pour qu'un juge d'instruction qui arrive en 2004, qui est un homme extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Vion, juge d'instruction à Chalon-sur-Saône, finisse par être saisi par réquisitoire introductif du parquet de Chalon pour l'ouverture d'une information judiciaire, donc une commission rogatoire. Donc quand j'arrive, moi, en 2009, ça fait déjà pas mal d'années que l'association, par la voix de leur avocat, de son avocat, se bat pour que les enquêtes soient menées. Donc une commission rogatoire est en cours, tant sur l'affaire Maïri que sur l'affaire Blétry. Mais ces affaires sont considérées par mes collègues de Dijon comme une punition. C'est-à-dire que j'entends, oui, on a autre chose à faire que de se promener au bout de la Saône-et-Loire sur les dossiers de 20 ans. Il faut que les familles comprennent qu'il est temps maintenant de faire leur deuil, qu'on a fait tout ce qui était humainement et policièrement possible. Et moi, bien évidemment, comme je serai amené à travailler au fil de l'eau sur ces dossiers-là, je m'empare de ces dossiers sur un temps personnel, puisqu'on n'a pas de temps supplémentaire qui m'est donné, puisque l'actualité se déchaîne et il faut bien la gérer. Et de l'analyse que je fais de ma lecture de ces dossiers-là, je me rends compte que l'analyse faite par mes collègues n'est pas bonne. À mon sens, à moi, à la lumière de ce que j'ai reçu comme éducation policière au Quai des Orfèvres, je ne peux pas abonder dans ce sens. C'est-à-dire pour moi, tout ce qui était humainement et policièrement possible n'avait pas été réalisé. Donc je ne pouvais pas être porteur de ce message-là auprès des familles et leur dire « Écoutez, maintenant vous êtes gentils, faites votre deuil ». Donc je m'intéresse à des dossiers qui sont en cours, simplement c'est que, vous l'admettrez, et c'est ce que révèle mon livre, je m'y prends d'une manière diamétralement opposée à celle de mes collègues.
Alors vous dites aussi que finalement les victimes, les Christelle, venaient de milieux modestes et que vraisemblablement modeste. Aussi la justice les a peut-être un peu méprisées parce que si ça avait été des enfants de la grande bourgeoisie, la justice aurait-elle été plus active ?
Oui, bien sûr.
Et on peut le dire, ça ?
Oui,
ou alors,
d'autant, non, c'est pas imprudent, d'autant que c'est la justice elle-même qui l'a dit. C'est-à-dire que un représentant du parquet avait parlé de ces gens-là, et notamment de Marie Pichon, comme étant des petites gens. Donc c'est la justice elle-même qui le dit, je ne fais que le répéter dans mon livre. Et je peux vous dire que, au terme de l'expérience qui est la mienne et dont je peux me prévaloir, j'ai vu des dépôts de moyens beaucoup plus importants sur des meurtres commis sur des fils de notables que sur des immigrés du Punjab retrouvés tabassés à mort dans les caisses des camions abandonnés à la gare de Paris-Bercy en 2002.
Et tout cela vous heurte beaucoup.
Oui, bien sûr, puisque pour moi, chaque être humain est une histoire sacrée.
Alors pour vous, rendre des comptes aux familles, c'est très important. C'est une règle que vous avez intégrée bien avant que notre actuel ministre de la Justice,
Éric Dupond-Moretti,
l'ait rappelé. Vous dites que, effectivement, des traitements inhumains ont parfois été réservés à des gens qui étaient quand même dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans la solitude et l'abandon, au point même, alors ça vous choque énormément, que certains vont voir des voyantes pour essayer de savoir qui a tué leur enfant.
Oui, je l'ai vu très très souvent moi dans mon métier. Et ça a été d'autant plus vrai pour Marie Pichon, la maman de Christelle Maïri, qui est assassinée en 86. Figurez-vous quand même qu'elle est interrogée le 19 décembre 1986, qu'elle perd sa fille le 18 décembre, son père le lendemain, le 19 décembre 86. Elle enterre son père et sa fille le même jour, et elle ne reverra un enquêteur, en l'espèce moi, qu'en 2011. Faites le calcul, 1986-2011. Au bout de 6 mois, elle ne voit plus un enquêteur, et le seul hommage qu'elle reçoit pour sa fille, c'est une ordonnance de non-lieu, en février 90, qu'elle reçoit par voie postale. Elle n'est même pas reçue par le juge d'instruction. Donc, bien évidemment, voyant qu'elle n'est plus contactée et absolument déconsidérée par les institutions qui sont censées la défendre, la protéger, elle va voir un voyant, et je peux le comprendre.
Alors vous allez, bien sûr, hein, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail. Vous êtes, si je puis me permettre, major, un flic méticuleux, vous l'écrivez ?
Oui. Oui.
Très consciencieux, très prudent aussi. Vous n'accusez pas trop vite, vous recoupez les choses.
Oui. Pour moi, le travail du policier, et c'est important de le souligner, est un travail à la fois à charge et à décharge. C'est-à-dire que je ne suis pas chargé de prononcer les peines, de prononcer les sanctions et de reconnaître la culpabilité de quelqu'un. Je suis en charge de fournir aux personnes qui seront chargées de faire ce travail d'avoir tout ce qu'il faut pour prendre une décision en toute lumière, parce qu'il en va de l'histoire humaine. Imaginez un tant soit peu qu'on soit encore à l'époque de la peine de mort. C'est-à-dire que le travail que je vais faire vont amener des gens éventuellement à baisser le levier qui fera s'abattre le tranchant. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas décider qu'une personne sera enfermée à vie derrière les barreaux. Donc c'est un travail qui est particulièrement dangereux et sur lequel on engage son âme.
Alors vous êtes philosophiquement opposé à la peine de mort.
Oui. Foncièrement et philosophiquement, ça ne ramène rien, ça ne rachète rien.
Alors vous allez mettre en garde à vue des suspects des affaires des deux Christelle, hein, Christelle Maïri et Christelle Blétry. C'est un face-à-face. Et là aussi pour vous, obtenir les aveux d'un coupable, c'est un moment intense dans le métier.
Oui, et je veux
et humainement parlant et intellectuellement peut-être aussi.
Oui. Et je veux tordre le cou à certaines convictions qu'on pourrait avoir, qui pourraient permettre de penser que j'aurais le même ressentiment qu'un chasseur qui enfin met la main sur sa proie. Non, pas du tout. C'est un moment de vérité intense. C'est-à-dire que je suis connu pour la résolution de ces deux affaires-là, mais je peux vous dire que j'en ai bien d'autres au compteur et des recueils d'aveux, j'en ai connu de nombreux. Et pour avoir vécu souvent des aveux de la part de gens qui regrettaient profondément ce qu'ils avaient fait au point de vomir dans ma poubelle, c'est un moment humain très important. Et il faut savoir, c'est que même si il convient de respecter éminemment la souffrance des familles des victimes qui ont été assassinées, le meurtrier aussi a une famille qui va devoir vivre dans le sillage de ce que leur cher et tendre a commis comme atrocité, et que lui aussi, une fois qu'il aura... il sera passé devant la juridiction de jugement, qu'il aurait été reconnu coupable, qu'il aurait été condamné, du fond de sa cellule, il va falloir vivre avec ce qu'il a fait jusqu'à la fin de ses jours. Et l'aider à négocier ce parcours-là, garder à l'esprit qu'un jour, peut-être, il ressortira, il sera remis en liberté, et s'assurer que par ce travail de réparation de l'humain, de reconnaissance de ce qu'il a fait et d'amendement, on fournisse à la société l'assurance qu'il ne réitérera jamais ce qu'il a fait, ça fait partie aussi de mon travail. Et c'est en cela que l'aveu est important.
Vous écrivez « Je ne crois pas aux monstres, je ne fais face qu'à des hommes qui ont commis des actes monstrueux ».
C'est tout à fait ça. On est tous foncièrement avec cette capacité de faire à la fois le bien et le mal. Pour avoir étudié de nombreux parcours de criminels, je peux vous dire qu'il y a des événements de vie, à la fois joyeux mais malheureux, cruels, blessants, qui font qu'un jour, un être humain commet l'irréparable sur une autre personne. Et cela, c'est important de le contextualiser. Mais les gens ne sont pas foncièrement faits pour faire le mal. Et je dois conserver, pour rester authentique, la conviction qu'on est fait pour faire le bien.
Une passionnante plongée donc dans les enquêtes, dans les cold cases ou les affaires non résolues Maillerie et Blétry, alors que vous avez mis à jour, hein, puisque vous avez retrouvé les meurtriers qui sont, je pense, toujours en prison.
Oui, toujours aujourd'hui, oui.
Et vous l'écrivez dans ce texte poignant, L'Obstiné, paru chez Studio Fact. C'est Raphaël Nedilko qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion jusqu'à midi. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'un nouvel intermède musical.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Raphaël Nedilko, major de la police nationale, en poste donc à la brigade de Chalon-sur-Saône. L'actualité est très agitée. Au moment où on enregistre cette émission, je le répète, en marge du Salon du Livre de Blanzy, là vous revenez à Blanzy, là où a eu lieu cette dramatique affaire Blétry. Alors c'était en 1996 à Blanzy. D'ailleurs, la maman de la victime est venue vous saluer au salon. Est-ce que vous avez gardé avec ces deux familles des liens extrêmement amicaux et une grande complicité?
Familiaux, oui.
Vous écrivez dans votre livre L'Obstiné, aux éditions Studio Fact, le flic ramasse la merde d'une société qui ne connaît que le marche ou crève.
Oui.
Puis-je vous demander de... Un petit développement. Parce que vous êtes confronté finalement à des situations sociales souvent calamiteuses. Oui. Par exemple, il y a de l'inceste. J'ai vu parfois dans votre témoignage, vous parlez d'un homme qui a couché avec sa fille. Enfin, on est dans des familles rongées par l'alcoolisme, la misère, l'ignorance, la faiblesse intellectuelle. Enfin, c'est dramatique.
Oui, on se rend compte qu'en fin de compte, l'humain est une histoire sacrée, mais qui est faite de blessures psychologiques profondes. On est le fruit de ce qu'on a reçu de la part de ses parents, qui eux-mêmes l'ont reçu de la part de ses grands-parents. Et au-delà de tout phénomène d'atavisme, hein, bien évidemment, on se rend compte que la résolution de chaque être humain, c'est d'essayer de se conférer une image qu'il ne possède pas forcément. On se projette dans des désirs qui ne sont pas forcément les siens. On accomplit inconsciemment les souhaits qui sont formulés à votre compte par d'autres personnes, on réalise les vœux de ses parents, on cherche l'image de soi, on est dans la consommation, on est dans l'éphémère, on n'est jamais satisfait. Et au milieu de tout ça, on peine à trouver son chemin, on a perdu le sens des valeurs, on a perdu le sens des gens. Et la société ne fait pas de cadeaux. On est dans une société où on communique de plus en plus vite, mais pour diffuser des contre-vérités, pour manifester sa haine, pour manifester son mécontentement, et on brise des gens sans s'en rendre compte.
Il y a des moments extrêmement émouvants. Je crois que vous êtes jeune policier quand vous êtes appelé à la brigade et vous vous déplacez avec un autre collègue parce qu'on a découvert le corps d'un nouveau-né dans un centre de tri pour ordures ménagères.
Oui.
Et on imagine quand même que nous, citoyens, sommes protégés de ces horreurs. Bien sûr, elles sont médiatisées. Mais vous les vivez, vous les voyez. C'est des choses qui sont impressionnantes.
Oui. Alors,
c'est... autopsie, c'est quelque chose, c'est pas banal.
Oui, c'est traumatisant.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre dans les films.
Oui, ça n'a rien à voir. C'est traumatisant pour la personne qui y assiste. Alors, l'épisode que vous confiez dans le livre est plus précis que ça. Je n'étais pas accompagné. Non seulement je n'étais pas accompagné, mais on était en plein milieu de la nuit, il gelait à Pierrefendre, et je n'étais pas de permanence. Et j'étais en Saône-et-Loire, et donc au sud de la Saône-et-Loire, chez mes parents, en repos. Et j'étais appelé, alors que je n'étais pas de permanence, pour aller découvrir ce corps de bébé avec son cordon ombilical retrouvé au centre de tri, au nord de la Toison d'Or. Donc vraiment dans le nord de plutôt le nord de la Côte d'Or. Et j'y suis allé tout seul, et je n'étais pas de permanence. Donc j'ai demandé pourquoi c'était à moi de m'y rendre, et on m'a expliqué que les personnes qui étaient de permanence n'avaient pas ni l'expérience ni les capacités judiciaires et d'expérience pour pouvoir procéder à ces constatations de scènes de crime. Et bien évidemment, là on va au cœur de l'horreur, puisque on est vraiment dans la découverte d'un corps, dans ce qu'il a de plus innocent, de plus faible, un nouveau-né avec son cordon ombilical, né viable, c'est ce que révélera l'autopsie, et dont les parents ne voulaient plus.
Et qui en fait avait été sorti d'un congélateur.
Oui, c'est ça, il avait été conservé pendant longtemps dans un congélateur, c'était un corps dont la masse musculaire révélait une décongélation récente, et c'est là que j'ai été confronté à la difficulté de faire une recherche en ADN en parentèle, qui à l'époque, l'affaire Élodie Kulik n'ayant pas eu lieu, n'était pas autorisée par la chancellerie. Donc j'avais demandé, c'était pas la première fois que j'étais confronté à ce problème-là, de faire une recherche d'identification en ADN parentèle, donc pour que vos auditeurs et auditrices puissent comprendre, une recherche en parentèle consiste à utiliser la base de données du fichier national automatisé des empreintes génétiques, non pas pour trouver le mis en cause d'un homicide, mais de trouver une personne en filiation directe, donc un frère ou un père, qui serait inscrit dans cette base de données. Donc le FNAEG n'est pas utilisé, et c'était son domaine d'application au départ, pour identifier un mis en cause, mais un membre de la famille. Et à cette époque-là, on n'y avait pas droit.
Vous écrivez page 206. J'ai choisi ce métier pour la gloire, oui, mais la gloire de Dieu. Quitte à faire ricaner, c'est moi qui vise avec mon âme et conscience à plein temps, alors le regard des autres. La gloire de Dieu.
Oui. Alors moi j'en parle dans le livre, et c'est important de signaler que je ne fais jamais de prosélytisme dans mon milieu professionnel, je n'ai pas de signe religieux apparent, je ne parle jamais de ma pratique religieuse ni même de ma religion dans le cadre de mon travail, mais là c'est important de le dire, c'était pour que les gens puissent connaître quelle était ma motivation profonde et ainsi comprendre pourquoi je rentre à ce point en résonance avec la souffrance des gens, que ça soit des familles de victimes ou des familles de mise en cause et mise en cause. Et là oui, effectivement, pour moi, pourquoi la gloire de Dieu ? Parce que ma seule réjouissance est la manifestation de la vérité, tout simplement.
Vous dites que vous travaillez dans le respect de l'humain, vous ne méprisez jamais l'accusé, vous écrivez, je vous cite, « Je suis capable de déclarer que ce dernier s'est montré coopératif, sympathique, en proie à la culpabilité, toutes choses qui lui font honneur, même s'il est la dernière des crapules ou le pire des criminels, même s'il a montré un tout autre visage par ses actes, voire s'il est infect le jour du procès. » Respecter l'accusé, C'est essentiel.
Oui, et lorsque j'ai écrit ces lignes, je me rappelle parfaitement bien, j'avais en tête le souvenir d'un jeune homme qui se prénommait Fabien, qui avait étranglé sa petite amie d'à peine plus de 20 ans et avait démembré le corps avec une scie avant de jeter les fragments de corps aux quatre coins de Dijon. Et s'il avait été très très arrogant au début de notre entretien, lorsque on a été procédé à son interpellation, très rapidement, il est passé aux aveux, des aveux circonstanciés. Et c'est la personne dont je vous parlais il y a quelques instants qui en est arrivé au point de vomir dans la poubelle face à ce qu'il avait fait. C'est quelqu'un qui a reconnu les faits et a déclaré lors de son procès qu'il ne ferait pas appel de la décision qui serait prononcée contre lui.
Vous parlez d'un épisode où intervient la police des polices, l'IGPN.
Oui.
C'est cet épisode, d'ailleurs, où vous allez devoir rencontrer ce collègue qui a mal agi en dehors du service. Il est lieutenant de police et il a dégainé son arme de service pour se faire resservir un verre au bar dans une boîte de nuit. Alors, il y aura enquête, conseil de discipline. Vous l'avez rencontré, ce collègue ?
Oui, un lieutenant de police, un ancien des forces. Il était tireur d'élite des forces spéciales de l'armée. Il avait fait la campagne de Sarajevo. Il avait été blessé de guerre, décoré. Quelqu'un d'une gentillesse incommensurable et trop gentil, justement. Parce qu'il avait intégré les rangs de la police nationale en conservant de son parcours militaire l'esprit de corps, la cohésion, la fidélité dans l'épreuve. Et il a eu affaire à une toute autre mentalité lorsqu'il est arrivé du commissariat de Lure au commissariat de Vesoul, où effectivement il avait été muté pour se rapprocher de sa compagne qui était gravement malade. Et en fin de compte, il est tombé dans une cabale, il est tombé dans une sorte de guet-apens organisé par des collègues qui voulaient absolument qu'il soit discrédité aux yeux de la hiérarchie. Il l'avait abandonné un soir de nouvel an dans une boîte de nuit sans sa veste, sans rien. Donc j'avais dû enquêter, et c'est vrai que pris d'ivresse, alors il n'avait blessé ni menacé personne, hein, mais il avait sorti son arme, ce qui avait fait un mauvais effet, et j'avais mis au jour une collusion entre le personnel de la boîte et certains flics pas très honnêtes qui avaient vraiment cherché à se débarrasser de lui.
Il y a des policiers qui ne sont pas très corrects.
Oui, alors ils sont ultra minoritaires. Hein. La plupart, la quasi-totalité de mes collègues, aussi bien police et gendarmes, sont des gens extraordinaires, d'excellents professionnels qui souffrent de vivre le mieux possible leur vocation au quotidien. Mais on a des brebis galeuses et c'est pour ça que la police des polices existe. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mes collègues sont des gens extraordinaires. Mais quand on a un de nous qui sort... Qui passe la ligne blanche, il faut le sanctionner et continuer à avoir confiance et soutenir le reste des policiers.
Quel est votre sentiment envers la haine anti-flic actuelle ? Je ne dis pas qu'elle est systématique, mais elle existe.
Oui. Oui.
Est-ce qu'elle existe ? Est-ce que c'est une haine à des fins électorales ?
Alors, elle est à des fins électorales dans le sens qu'elle est agrémentée par certains idéologues, hein, qui sont bien sûr omnipotents et omniscients, hein, qui prétendent avoir échangé sur le sujet avec certaines couches de la société pour pouvoir s'octroyer le droit de parler à tort et à raison sur le sujet. Elle vient, c'était une anti-flic de la part de deux catégories d'individus, des gens qui, à raison, ont eu des rapports avec certains policiers qui se sont mal passés. Donc j'en veux pour certains contrôles abusifs. J'ai vu certains collègues contrôler des gens qu'ils connaissaient pour les avoir contrôlés plusieurs jours d'affilée. Donc ça servait à rien de réitérer ce contrôle. Et il y a des gens qui ont cette haine du flic, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu bas de plafond et qui n'aiment pas sortir de leur petit confort. Voilà, il faut le souligner.
Alors, comment prévenir le suicide des policiers ? Parce que c'est une réalité également.
Oui. Alors ça, c'est un problème pour avoir été... alors, j'ai énormément de collègues qui ont mis fin à leur jour, des collègues que je connaissais personnellement. Certains ont mis fin à leur jour à leur domicile et d'autres l'ont fait sur leur lieu de travail. Et je peux vous dire que d'entendre la déflagration d'une arme à feu, ça jette un froid. C'est horrible. C'est de voir un collègue pour lequel on n'a rien vu venir qui, d'un instant à l'autre, est un corps d'un corps sans vie, c'est absolument épouvantable. Mais je pense que il faut bien comprendre que le policier rentre dans l'administration par vocation. C'est quelqu'un souvent qui inconsciemment cherchera à combler en vivant son métier avec force, avec conviction, ce qu'il peut-être n'a pas pu trouver dans son milieu familial, dans son entourage amical, et qu'il va essayer d'y trouver certaines projections de vie. Il est important de comprendre qu'il attend de la part de ses frères du quotidien et de la part de sa hiérarchie une récompense et un déroulement de carrière qui dans la plupart des cas, ne vient pas. On a cette réticence dans l'administration à reconnaître l'existence du burn-out, l'existence de la dépression nerveuse au sein des services de police et l'existence d'un lien de causalité direct dans la façon dont on est managé et les raisons qui poussent certains d'entre nous à mettre fin à leur jour. Donc tant qu'on ne reconnaîtra pas réellement, puisqu'il y a beaucoup de ce que j'appelle la calinothérapie pour essayer de prétendre que ça nous intéresse, mais c'est encore une fois, c'est un jeu de posture. Et je pense qu'on a un réel travail à faire. Alors beaucoup de mes collègues et de ma hiérarchie sont réellement investis par ce souci, mais de façon générale, on a énormément de travail d'objectivité, de transparence à faire à ce niveau.
Raphaël Nedilko, on est au terme de notre échange. Je rappelle le titre de votre livre, L'Obstiné, c'est chez Studio Fact, dans lequel vous racontez des éléments très personnels, mais aussi la résolution de ces deux affaires qui avaient été longtemps mises un petit peu en souffrance par l'institution judiciaire, les affaires Maïri et Blétry. L'Obstiné. Vous avez un prochain livre ?
Oui, j'ai un projet.
Alors,
de livre.
Alors un témoignage, un roman ?
Alors non, je serai encore dans le réel, bien évidemment. Il est important de témoigner, le sujet qu'on a évoqué en tout dernier, donc le mal-être de la grande majorité de mes collègues qui en viennent à mettre fin à leur jour ou tenter de le faire, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie, est un sujet qui me touche. Et de la même façon, les difficultés que ressentent beaucoup d'entre nous à ne pouvoir vivre leur vocation au quotidien telle qu'ils rêvaient de le faire quand ils sont rentrés dans l'institution.
Donc nous sommes amenés à vous revoir à la télévision.
Je l'espère.
Il y a eu un documentaire qui est en 2018 sur Planète Crime Investigation.
L'enquête de ma vie de Sam Caro sur une illustration de Benjamin Malherbe, un documentaire qui a été traduit et vendu aux États-Unis et au Canada sous le titre The Case, dans lequel j'apparais, ma vie est racontée. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est la vie de l'enquêteur passée au travers du filtre de l'enquête. Hein. Donc l'enquête devient un décor. Il y a eu plusieurs faits entrer l'accusé, j'ai eu des passages sur la plupart des chaînes et il y a concernant le livre un projet de fiction, voilà, du personnage de l'obstiné, hein, et un projet donc de série documentaire pour France Télévisions, plein de projets, éventuellement pourquoi pas le grand écran, on verra bien. Avec cette particularité, c'est que je me suis engagé auprès des familles des victimes à ce que les morts de Christelle Maïri et de Christelle Blétry ne soient jamais portées à l'écran.
L'obstiné de Raphaël Nedilko qui nous a accompagnés, que je salue et remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Pour ce partage. Le livre est disponible bien sûr chez son libraire et notre émission peut se réécouter en podcast sur yannickpetit.fr. Je donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs samedi prochain, toujours à 11h sur Radio. Un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Raphaël Nedilko.
Au revoir Yannick, merci de votre invitation.
Au revoir à toutes et à tous.